55 dans le pit stop, 14h avec les demoiselles.
Salut! Bye.
Boulevard. Québec. 102.1. Ville de radio. À l'écoute des citoyens. Notre programmation 100% parlée en semaine est là pour vous. 6h, Marceau le matin, avec Yann Marceau, Max Larouche et Jeff Fortin. 7h55, le Pit Stop avec Denis Gravel. 6h, le Point de Max, maintenant en duo avec Catherine Bachand. Le midi, on jase avec Jeff Fortin, Pascal CV et le caucus avec Antonin Niacarini. 14h, Gravel dans le retour avec Denis Gravel, Véronique Bergeron et Audrey Pinchot. 18h, Marceau le soir, Boulevard 102.1. Maintenant, 100% parlé en semaine. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
C'est un plaisir de le retrouver chaque lundi. C'est Maître Marc Bellemare, ex-ministre de la Justice, avocat, spécialiste de la SAC, d'IVAC, la CNSST. Si vous avez des dossiers à lui soumettre, c'est bellemareavocat.ca. Il est là, on l'accueille, Maître Bellemare. Bon lundi!
Oui, comment vas-tu? Grosse fin de semaine?
Ah, on a célébré la fête des mères. J'ai une petite mère qui est très importante pour moi, même si on n'est plus en couple. La mère de mes enfants, c'est une femme exceptionnelle. Donc, on a célébré avec les gars son anniversaire.
Bon, ben, t'es donc bien fin d'avoir pensé à ça. Et ben, finalement, tout le monde y pense. Là, mais moi, la fête des mères, il y a tout le temps des... Moi, j'en ai deux quand même à remercier et à féliciter pour m'avoir donné d'une part 3 enfants et d'autre part 2 enfants, ce qui fait 5 au total. Et j'ai aussi 2 mères parmi mes filles, alors qui m'ont donné chacun 2 petits-enfants, ce qui fait 4, plus mon fils qui en a eu 2, ça fait 6. Alors, j'ai 6 petits-enfants et c'est vraiment extraordinaire. Puis c'est vrai qu'être grand-père, là, c'est le fun parce que tu n'as pas le stress et la pression d'un parent. Et en même temps, même si tu ne vois pas les enfants aussi souvent, c'est toujours un grand bonheur de les retrouver, de réaliser qu'il y a une relève.
Oui, ils ont donné la vie. Mais, les femmes disent souvent, Maître Bellemare, que les hommes sont des problèmes en général.
Oui, bien, c'est
mais
bien possible.
Qui met au monde les hommes?
Oui, c'est des femmes.
C'est alors, les
c'est
femmes.
De leur faute.
Donc, c'est de leur faute si on a des problèmes. J'essayais de leur expliquer ça en fin de semaine, puis ça n'a pas été vraiment accepté. Là. Ça...
Le péché originel. Non, mais...
Puis, écoute, on est juste entre nous deux, là. À refaire ma vie, Maître Bellemare, je pense que je serais fleuriste. Là. Les fleuristes doivent être multimilliardaires. Là. C'est rendu qu'une douzaine de roses, ça coûte quasiment 100$, Maître Bellemare. Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben, mais le problème, si tu es fleuriste, c'est que tu soignes des hommes ou presque. Alors, c'est moins le fun, parce que ce qui est le fun dans une job, c'est de faire affaire avec des femmes.
Aussi.
Alors, si tu vois que des hommes qui vont chercher des fleurs, puis etc., mais il y a peut-être des femmes aussi qui vont chercher des fleurs de temps en temps. Mais
100 piastres le bouquet de fleurs, Maître Bellemare, là, c'est toujours bien des plantes là, qu'on regarde pousser, puis à un moment donné, ben, sont prêtes à vendre. Là. 100 piastres un bouquet de fleurs. Oh, dis.
Oui, oui, mais là, il y a du transport, il y a de la culture, il y a de la manutention.
Non, mais
il y a un hôtel à conserver, il y a un loyer à payer, des taxes à M. Marchand, des taxes à Mme Fréchette, les taxes à M. Carney. Il y en a un pour l'autre. Alors, et finalement, ça coûte cher, mais c'est vrai. Puis, écoute, eux autres, ils ont des pics dans l'année, là. Fête des mères, Pâques, ouais. Noël, les anniversaires, alors...
Je parlais avec un de mes chums, lui, plus dans le secteur de Drummondville. Il m'a dit que son bouquet de fleurs lui avait coûté 120$, c'était des roses. Si je me trompe pas, là, c'était pas 150 roses, là, c'était genre 12 roses, 120$. Coudon, les fleuristes, là, ils leur racontent-tu des histoires à ces roses-là chaque soir pour les endormir à ce prix-là? 120$, ouais. 12 roses.
Il y a des roses bleues,
oui.
Il y a des roses roses,
oui.
Il y a des roses oranges, il y a
blanche.
Des roses blanches, il y a des roses de toutes les couleurs, mais il reste que les recevoir des fleurs, écoute, c'est le fun, là. Puis donner des fleurs, c'est peut-être encore plus le fun, mais moi, j'ai déjà une conjointe qui était allergique aux fleurs, alors c'est un peu moins le fun.
Ben, ça dépend, c'était plus le fun pour votre portefeuille.
Ben non, les parfums, les odeurs, tu sais, les gens qui ont des problèmes de sensibilité
oui.
au niveau des voies aériennes supérieures. Moi, j'ai souvent des clients qui ont été intoxiqués.
Ben oui.
qui ont respiré de la cochonnerie ou qui font de l'asthme, ils vont dire ben, les parfums, les odeurs, le linge qu'on vient de laver, le savon dans la laveuse, lave-vaisselle, tout ça, ça, à chaque fois, ça les fait tousser puis ça leur donne des réactions pulmonaires ou cutanées des fois. Alors oui, c'est vrai, ça a été plus économique pour moi de ne pas avoir à payer pour ça, mais les fleurs, ça demeure autrement. Évidemment, il y a les funérailles et puis tout ça, mais aujourd'hui, il y en a moins. Alors autrefois, on avait des gens qui étaient exposés, il y avait des tombes, il y avait une grande tombe, puis il y avait des fleurs partout, des couronnes de fleurs, ça venait du patron, ça venait du voisin, ça venait du beau-frère qui n'avait pas parlé depuis 20 ans, puis il y en avait des fleurs. Mais aujourd'hui, ils ont perdu ce marché-là, Yannick.
Alors, je comprends, ben, c'est peut-être pour ça qu'ils ont augmenté, mais là, c'est rendu que les fleuristes, ils chargent quasiment aussi cher que les avocats. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus?
Ben, c'est connu que les avocats chargent moins cher que les fleuristes, c'est ça que tu veux me dire. Non, il faut toujours bien qu'il en reste sur les prix qu'on charge comme avocat pour acheter des fleurs de temps en temps.
Ah, ben oui, ben oui. Revenons à nos moutons. J'ai parlé avec une dame exceptionnelle à qui j'ai jasé. Là. Elle a été, puis elle est encore la victime d'un pédophile récidiviste qui a œuvré, lui, dans les années 80, qui a fait parler de lui la semaine dernière parce qu'il s'est sauvé de sa maison de transition. Son nom, c'est Gilles Tardy, qui a engendré une véritable chasse à l'homme la semaine dernière. Il a été en cavale pendant 16 heures, Maître Bellemare. Il a purgé une peine de prison à vie pour des crimes qui sont épouvantables entre 1984 et 1985. Lui se faisait appeler le violeur au gant noir. Il a agressé sexuellement 37 victimes et la moitié de ces victimes avaient moins de 11 ans. Le gars a passé 40 ans en prison et là, on a décidé qu'il représentait un risque acceptable pour la société. Et quand on a fouillé sa chambre pendant que lui était absent, on a découvert des photos pédopornographiques. Donc, lui savait que la maison de transition, c'était fini, puis il retournait en tôle. Donc, il s'est sauvé. Il a 69 ans aujourd'hui et il est en prison. On a réussi à le retrouver. Il est allé chercher des vêtements, il est allé au guichet automatique chercher de l'argent, il est allé à la pharmacie. Comment se fait-il que ce gars-là peut revoir la lumière du jour, Maître Bellemare? 37 victimes. Il a violé 37 personnes entre 1984 et 1985. Là, on dit 2026, ça fait un bail. Il représente un risque acceptable pour la société. On va le mettre en semi-liberté pour voir comment il va. Puis là, on s'aperçoit que c'est encore un sale porc.
Oui, c'est la Commission des libérations conditionnelles, vraisemblablement du Canada, qui est passée là-dessus, j'imagine. Et eux, ils évaluent les risques potentiels parce qu'ils sont assez généreux sur la liberté. On a déjà parlé, Yannick, le grand principe en justice criminelle, c'est la promotion de la liberté. C'est-à-dire que, à moins d'avoir une preuve écrasante de culpabilité et de danger, l'individu peut sortir. Alors, on favorise la liberté. C'est pour ça qu'on peut libérer un détenu s'il y a un comportement ou s'il présente un risque qui est acceptable pour la société. C'est pas aucun risque, parce qu'à mon avis, ça devrait être aucun risque, tu sais. Même si aucun risque, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas éventuellement de récidive, aucun risque, ça devrait être le critère. Et le risque qu'il présente en liberté, c'est quoi? Comment tu évalues ça? À partir du passé, bien sûr, mais pour l'avenir, comment tu évalues ça? Le risque d'une personne dans la société? Parce qu'à l'intérieur des murs, il peut être bien fin, là. Il peut être irréprochable. Il y a un dossier irréprochable à condition qu'il y ait une surveillance, des agents correctionnels au pied carré, et des cours et des psychologues, puis tout ça, mais en liberté, là, c'est une autre affaire. Hein? T'es dans la jungle. Alors là, c'est là qu'il peut devenir un dangereux prédateur. On m'a indiqué aussi que dans la maison de transition, les portes n'étaient pas barrées. C'est quoi cette affaire-là? T'sais? Les portes ne sont pas barrées. T'sais? On barre nos portes le soir, nous autres, là. Puis lui, eux autres, ils ne barrent pas les portes. Alors, les bandits, les condamnés, les criminels, parce que c'est des criminels, ils ont déjà un dossier solide et vraisemblablement au niveau fédéral, donc des peines. Quand tu es en pénitencier fédéral, c'est qu'il y a une peine d'au moins 2 ans. Alors, ce n'est pas des enfants de cœur, là, c'est des crimes graves. Et les portes sont ouvertes. Alors, mon gars s'est sauvé pendant 16 heures, effectivement. Ils l'ont rattrapé parce que vraisemblablement, il n'y avait pas de place où aller. Mais s'il y avait eu le moindrement de protection autour de lui, des contacts, des alliés, il aurait pu s'en sortir. Mais effectivement, on a vu dans le journal, d'ailleurs, une photo de lui, jeune garçon. On a vu une photo vieillissant. C'est bien sûr qu'aujourd'hui, je pense qu'il a 69 ans. Il a un peu changé, c'est normal, mais ça ne veut pas dire que ses perversions sont disparues. Et même si la libido peut en avoir pris un coup au fil des années, il demeure qu'on sait très bien que la libido n'a rien à voir avec la pédophilie, en ce sens qu'il peut y avoir une perte de désir, une perte de libido chez l'individu, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une attirance vers de jeunes enfants et qu'il n'y a pas un certain plaisir, même si c'est un plaisir mental seulement, à agresser et à profiter de jeunes enfants.
Moi, j'étais un auditeur du Doc Mayhew à l'époque. Doc Mayhew, il n'avait pas juste des défauts, là, il avait aussi des qualités. C'était un homme qui était très intelligent. Puis lui proposait, pour remettre des agresseurs sexuels en liberté, il proposait la castration chimique automatique. Donc, pour qu'une personne puisse être remise en liberté, quand on regarde son dossier criminel, on voit que c'est un agresseur sexuel à répétition, ben, il devait aller chercher, s'il voulait rester à l'extérieur des murs, sa piqûre pour la castration chimique à chaque mois. Il rencontrait un agent, il rencontrait une infirmière, il recevait sa piqûre, puis là, ça voulait dire qu'il pourrait passer 30 jours encore à l'extérieur avec la castration chimique. C'était une idée du Doc Mayhew. Je ne comprends même pas pourquoi que ça ne s'est pas rendu au ministère de la Justice. Tu veux sortir de prison, tu es un agresseur sexuel, ben pour un certain temps donné, pour voir comment ça va, ben pendant que tu es dehors, tu vas devoir te faire castrer chimiquement, puis au fur et à mesure que les années avancent, ben on verra si on ne pourrait pas peut-être diminuer ta dose pour qu'à un moment donné, ton petit moineau puisse commencer à recommencer puis avoir une vie normale.
Oui, c'est sûr. Mais moi, je suis pas en mesure de te dire si c'est bon ou pas, parce que je ne suis pas médecin, encore moins psychiatre, mais je pense qu'il faut vraiment essayer d'autres choses, parce que chez les criminels de nature sexuelle, contrairement aux voleurs de banque puis aux fraudeurs, c'est une perversion tellement ancrée chez l'individu, la pédophilie, l'attirance vers les enfants, le fait d'éprouver un certain plaisir dans le fait d'abuser des enfants, de voir des films où les enfants sont abusés. Ce genre de perversion-là est tellement tenace qu'on a un taux de récidive qui est plus élevé que dans d'autres types de crimes. Parce que ce n'est pas juste de faire comprendre à l'individu qu'il a mal agi puis qu'il ne faut pas qu'il recommence, mais c'est aussi d'affranchir l'individu d'une perversion profonde qui sévit chez lui depuis sa tendre enfance, qui s'est développée au fil des années et qui a mené à des crimes objectifs pour lesquels il y a eu enquête et condamnation. Mais je pense que ça nous ramène un peu à un débat qu'on a eu souvent au niveau des registres des pédophiles et des agresseurs sexuels. Je pense que Mme Fréchette, notre première ministre, a manqué la semaine dernière une occasion rêvée, je pèse mes mots là, de passer à l'histoire. J'aurais voulu, j'aurais souhaité et j'aurais pensé qu'elle aurait annoncé la mise sur pied d'un registre officiel, public, gratuit au Québec pour qu'on ait l'identité des pédophiles et des agresseurs, des hommes qui seraient, ou des femmes d'ailleurs, mais surtout des hommes qui se rendent coupables de violences conjugales. J'aurais souhaité ça parce qu'elle a eu un bon mot à l'Assemblée nationale pour dire on va mettre en place des mesures pour essayer de soutenir les femmes, puis les féminicides, c'est terminé, puis c'est ci, puis c'est ça. Mais j'aurais souhaité que cette vieille promesse, parce qu'en 2017, tu te souviendras, 2018, avant l'élection de la CAQ, Geneviève Guilbeault, qui était députée de Louis-Hébert, avait promis la mise sur pied d'un registre officiel, public, gratuit, pour qu'on puisse savoir qui sont nos voisins, les batteurs de femmes et les pédophiles, pour qu'on puisse les identifier dans le cadre d'un registre, pour que les femmes puissent savoir à qui ils ont affaire et les hommes puissent savoir qui sont leurs voisins, qui sont leurs alliés, qui sont les gens avec qui leurs filles ou leurs garçons vont à la piscine la fin de semaine puis jouer au hockey ou quoi que ce soit. Mais c'est une occasion ratée. J'aurais souhaité que Mme Fréchette passe à l'acte de ce côté-là parce que, à mon avis, c'est inacceptable que les passés criminels, surtout dans les crimes de nature sexuelle et de nature violente, face à un conjoint ou à une conjointe, soient complètement ancrés dans nos plumitifs de nature criminelle, mais qu'ils ne soient pas accessibles facilement sur un simple clic qu'on puisse savoir quel est le pedigree criminel d'un individu.
V'là un mois, Maître Bellemare, sous la plume de Patrick Bellerose dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, on apprenait que les multirécidivismes en matière de violence conjugale vont être fichés dans un registre public afin de permettre aux conjointes de connaître leurs antécédents. Ça avait été demandé par un regroupement de corps policiers J'avais parlé au ministre qui est maintenant rendu vice-premier ministre du Québec, Yann Lefrenière, et il m'avait mentionné qu'il allait mettre ça de l'avant et avec plaisir. Ce qui reste à déterminer, c'est pourquoi on le fait pour les femmes, pourquoi on le fait pour protéger les femmes, mais pourquoi on le fait pas pour protéger nos enfants avec un registre des pédophiles? J'ai pas obtenu de réponse de la part de Yann Lefrenière à ce sujet-là. C'était pour les femmes, ben c'était une manière de se protéger à l'avenir. Donc, si tu as un doute sur un individu, tu vas aller sur ce registre-là et tu vas voir son fameux pédigree de violence conjugale. Mais on aurait dû le faire pour les enfants aussi.
Oui, c'est pas plus difficile. Et je te rappelle, Yannick, qu'on est toujours au stade des promesses, des engagements, parce que j'ai hâte de voir le jour où ça va être véritablement réalisé, parce que des promesses comme ça, on en a, je l'ai dit tantôt, depuis 2017. Ça va faire presque 10 ans qu'un parti politique au Québec s'est véritablement positionné là-dessus, qui était la CAQ à l'époque, là, de M. Legault. Mais effectivement, la promesse de 2017, la CAQ, c'était pas pour la loi de Clare, C-L-A-R-E, là, qui est finalement une loi anglaise qui a permis l'émergence de registres un peu partout dans le monde pour permettre aux femmes, surtout, de connaître les antécédents de violence conjugale du gars qui est en train d'écrouser ou avec qui il vit, parce que souvent, ils ne savent pas le pedigree de l'individu. Mais la promesse de la CAQ, c'était pour les pédophiles, c'était pour les criminels, ouais, de nature sexuelle, les crimes de nature sexuelle, et on n'a jamais vu le jour de ça. Alors, on a un registre au fédéral, on appelle ça là, les délinquants contrôlés ou les délinquants qui sont qui sont fichés. On a un registre au fédéral qui est contrôlé de Parthenay. Il y a deux policiers qui sont là, à Parthenay, et qui reçoivent des appels d'autres policiers qui leur disent « Bien, on a eu un enlèvement d'enfants à Gaspé, à Roberval, à Rouyn, à Montréal. On aimerait ça savoir qui sont les pédophiles qui sont dans le registre, qui vivent au pourtour de l'individu où on a eu une agression ou un enlèvement. » C'est pour ça que c'est à ça que ça sert le registre fédéral. Moi, je n'ai pas accès au registre fédéral, puis toi non plus. Alors, on ne sait pas qui sont ces criminels-là. Ils sont fichés, on paye pour ça chèrement, mais on n'a pas accès publiquement. Et c'est là le problème, parce que si on veut véritablement protéger la population, il faut que la population ait accès à ce registre-là, comme ça se fait dans certains États américains et comme ça se fait dans certaines provinces canadiennes, où on a beaucoup plus d'accès, beaucoup plus facilement, à l'identité des gens qui sont condamnés pour ce type de crime-là. Alors encore ici, au Québec, c'est impossible d'avoir les informations. Évidemment, tu as le plumitif de la cour criminelle qui contient toute l'information, mais ça prend un paquet de détails, notamment la date de naissance de la personne. C'est pas tout le monde qui a ça. Si tu commenceras pas à demander aux gars qui fréquentent l'aréna puis qui regardent les petits gars de travers c'est quoi ta date de naissance pour pouvoir voir s'il a déjà été condamné. Tu ne peux pas demander à quelqu'un la date de naissance qui est une information confidentielle, nominative, qui n'est pas accessible à tout le monde. Pour connaître le pedigree, les antécédents criminels d'un individu. Alors, tout ce qu'on a comme référence, finalement, c'est les médias électroniques, les médias écrits qui peuvent nous permettre de dire que telle ou telle personne a déjà été condamnée pour un crime de cette nature-là. Quelqu'un qui est très connu, on va le savoir parce que c'est dans les nouvelles, puis on sait que l'individu est très connu et qu'il a déjà été condamné pour un crime sexuel. Mais quelqu'un qui n'est pas connu, ça passe sous le radar, puis on le sait, hein, ce que recherchent tous les criminels, et particulièrement les pédophiles, c'est l'anonymat. L'anonymat, c'est ce qu'ils veulent, être anonyme, parce que dans l'anonymat, on peut recommencer. Dans l'anonymat, on n'est pas suspecté. Oui. Dans l'anonymat, on n'est pas soupçonné par qui que ce soit, et c'est là que la perversion se manifeste le plus, et c'est là que l'individu peut plus facilement s'approcher des enfants et les agresser.
Entièrement d'accord avec vous. En vous rappelant aux gens qui voudraient s'informer sur le dossier criminel de l'un ou l'autre, c'est assez facile. Vous pouvez vous rendre au palais de justice. C'est disponible au greffe. Effectivement, comme Maître Bellemare le mentionne, ça prend le nom, le prénom et le nom de la personne en plus de sa date de naissance. Dans certains postes de police aussi à l'entrée, quand vous allez à la même place là, pour payer les billets de contravention, il y a des petits ordinateurs maintenant qui sont directement branchés et vous pouvez faire la recherche sur l'individu que où vous voulez vous informer. Pour ce qui est du palais de justice, toujours gratuit. Pour ce qui est du poste de police, là, je pense qu'il y a des frais qui sont demandés à certains endroits. Mais effectivement, ça prend le prénom, le nom et la date de naissance de l'individu pour faire des recherches. Autre chose, Maître Bellemare, que je voulais discuter avec vous, c'est un dossier qui est intéressant puisque ça touche monsieur et madame tout le monde, ça touche tout le monde au Québec, l'état de nos routes. Je regardais le plan québécois des infrastructures et je me rends compte que pour ce qui est de se charger de nos routes, Maître Bellemare, c'est 88 % du budget qui est alloué au réseau routier, qui va uniquement au maintien d'actifs. Et ce n'est pas suffisant. Juste à se promener à Montréal ou encore à Québec, on s'aperçoit que sur nos routes qui sont gérées par le provincial, ça semble extrêmement difficile. Hier ou avant-hier, c'est vendredi, Maître Bellemare, vendredi matin dans mon émission, j'ai fait entendre une entrevue de Patrice Roy avec Soraya Martinez-Ferrada, la nouvelle mairesse de Montréal, qui fait un appel à tout le monde. C'est un appel d'offres à quelconque entreprise qui est capable de réparer des trous béants sur l'asphalte dans la ville de Montréal. Bien, si vous êtes capable de le faire, essayez de remporter cet appel d'offres-là parce qu'on a besoin de vous. Puis Patrice Roy, je ne sais pas si vous avez vu l'entrevue, là, a dit à Mme Soraya Martinez-Ferrada: mais vous avez pas peur que ça vous colle à la peau, demander de l'aide à n'importe qui pour réparer les nids de poules? Elle a dû expliquer que c'est sa job de mairesse de réparer les nids de poules, puis elle doit faire ce qu'il faut pour les réparer le plus rapidement possible. Puis actuellement, la voirie à Montréal, Maître Bellemare, c'est quand même la métropole, là. Bien, la voirie avait deux appareils pour réparer les nids de poules, puis les deux sont en panne, puis s'ils commandent un autre appareil pour réparer les nids de poules, ils vont l'avoir dans un an, deux ans. Montréal, pour ce qui est de l'état des routes, c'est une catastrophe. Je pense que, tu sais, je suis content que cette mairesse-là fasse cette job-là, parce que l'autre, elle était tout le temps partie sur une bulle, là, mais elle se ramasse avec les problèmes de l'ancienne administration. Il faut faire quelque chose pour l'état de nos routes, que ce soit au provincial ou au municipal. Puis je voulais vous demander, Maître Bellemare, à quand on va rendre responsable le gouvernement du Québec quand il y a des incidents sur les routes? Parce que, bon, je sais pas, moi, mon pneu a été détruit parce qu'il y avait un nid de poule qui n'a pas été réparé. À quand on va rendre responsable les villes du Québec qui n'ont pas fait leur travail? Est-ce qu'on pourrait remettre ça en place? Parce que c'est un cadeau qui leur a été donné il y a de ça quelques années, là. Le fameux « no fault ».
Oui, c'est ça. Le « no fault » s'applique aux dommages corporels, mais effectivement, des fois, c'est pas juste le pneu qui éclate, c'est l'individu qui se cogne la tête ou souvent, il y a des dommages matériels, mais il y a des dommages corporels aussi. Des fois, c'est la crainte aussi. Des fois, c'est un capotage. Des fois, c'est la crainte de que l'automobile s'emballe et qu'il y a des... alors, il y a toutes sortes de dommages qui sont rattachés à ça, évidemment, mais on sait bien qu'au Québec, il n'y a pas de recours, même contre le gouvernement ou contre une ville, pour un dommage corporel survenu sur la route, en autant que vous ayez un volant dans les mains ou que ce soit un automobile qui soit responsable de l'accident. Mais l'individu que Mme la mairesse appelle M. Nidpoul, affectueusement, il s'appelle Saad Tekyout. Moi, je pense qu'on devrait donner un prix. On devrait donner un prix à M. Tekyout. Moi, si j'étais au gouvernement, là, j'y donnerais une médaille. Et je me demande qu'est-ce que le député de son comté attend pour lui donner une médaille de l'Assemblée nationale pour avoir réparé des nids de poules lui-même, avoir pris l'initiative. Il s'est déplacé à l'hôtel de ville il n'y a pas longtemps pour s'entretenir avec les médias, après la conférence de presse de la mairesse, pour dire « mon but, c'est de nettoyer les rues de Montréal, ça marche ma méthode, c'est pas une méthode permanente, mais une méthode d'urgence », s'est-il défendu. Quelle bonne idée, quelle belle initiative, parce que souvent, c'est comme ça un citoyen isolé, qui n'est pas réseauté, qui n'agit pas au nom d'un syndicat ou d'une organisation quelconque ou d'un ordre professionnel, qui décide, lui, d'aller boucher des trous parce qu'il est écœuré de vivre dans une ville où tu n'es pas capable de faire 10 mètres sur le chemin sans risquer de briser ton véhicule. Puis là, on parle des routes, on ne parle pas des trottoirs, on ne parle pas des parcs, on ne parle pas des autres infrastructures urbaines à Montréal qui sont en pleine décadence. Alors, et là, le syndicat s'en mêle en disant, bien, effectivement, on n'a pas de machinerie, etc. Fait que là, la mairesse, ça s'est donné 3 ans pour arranger ça. Mais 3 ans, Yannick, ça n'a pas de bon sens. T'sais. Pourquoi ça prend 3 ans? Il y a une énorme fonction publique à Montréal. Il y a des cols bleus à plein. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de réparer des nids de poules? On ne parle pas de refaire la rue Sherbrooke, là, qui a, je ne sais pas, moins 20-25 kilomètres de long, là. On parle de réparer des nids de poules, donc d'aller à l'essentiel. Autrefois, on parlait de refaire des routes. Aujourd'hui, on parle de réparer des routes parce qu'on n'a plus les moyens d'y refaire. Mais boucher des trous, c'est quand même pas la fin du monde.
Non.
Et Valérie Plante, je ne sais pas où qu'elle est. Elle doit être bien contente de pouvoir préparer, j'imagine, une candidature à un quelconque gouvernement de plus haut niveau.
Ah, Valérie Plante, je peux vous dire où elle est. Elle fait le tour du monde actuellement. Elle visite plein d'endroits avec sa prime de départ. Elle qui était la grande verdoyante qui faisait la morale à tout le monde en disant que ça prend moins de voitures pour contrer les gaz à effet de serre, ça prend plus de pistes cyclables. Bien, je peux vous dire que maintenant, elle se promène partout à travers le monde en voyage, puis elle en dépense du gaz d'avion, je peux vous le dire. Ça, là, c'est toujours bon pour les autres, c'est jamais bon pour eux autres. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. C'est gênant.
Oui, c'est ça. Puis, c'est ça, on récolte un peu ce que Mme Plante a semé pendant qu'elle était mairesse, avec son grand sourire. Pendant qu'elle nous faisait des grands sourires, il y avait des conditions routières qui se détérioraient. On sait qu'il y avait des travaux interminables dans plusieurs rues, des cônes oranges. Il y a des reportages de TVA qui ont été présentés où on savait que pendant des mois de temps, il y avait des chantiers qui n'avaient pas bougé d'un iota. Et là, ce que nous dit le syndicat, quoique je prends toujours ça avec un grain de sel, ce que les syndicats nous disent dans ce genre de situation-là, mais je pense qu'ils ont raison en partie, parce que ce qu'on nous dit du côté du syndicat de la Ville de Montréal, c'est que la totalité des colmateuses automatisées, Python 5000, ça a l'air que c'est ça, la machine anti-nid de poule, sinon nid d'autruche, parce que là, on parle de nid de poule, mais je trouve qu'on est poli, parce qu'on devrait parler de nid d'autruche ou de nid de dinosaure, ça serait plus approprié. Donc, la quasi-totalité sont inutilisables. Même chose pour les bennes chauffantes, des remorques avec une boîte à asphalte dont la moitié sont défectueuses. C'est quoi cette affaire-là? Des véhicules immatriculés, propriété de la Ville de Montréal, qui ne sont pas utilisés pour réparer les infrastructures. Alors, la question que je me pose, c'est les fonctionnaires qui sont payés pour utiliser ces machines-là qui ne marchent pas, ils font quoi pendant ce temps-là? Ils sont chez eux, ils sont dans le garage, puis attendent le mécanicien pour réparer ça. Alors, malgré tout ça, le syndicat nous dit que la ville soutient avoir colmaté entre 20 000 et 24 000 nids de poules. En tout cas, moi, la dernière fois que je suis allé à Montréal, là, ça doit faire 3 semaines, là, je vais te dire en affaire, j'ai failli défaire mon char, puis je te jure, là, c'est pas annoncé, hein. Tu arrives, à un moment donné, c'est bang, il y a un trou, c'est pas annoncé, il n'y a pas nécessairement de pancarte ou de cône orange pour dire « faites le détour », tu t'en vas sur une rue pas compliquée, une rue résidentielle, pas une grosse rue importante, puis là, ça donne un coup, et c'est très surprenant, et c'est dangereux, parce que je te le dis, là, il y a surtout des dommages matériels qui sont enregistrés, mais éventuellement, tu peux donner un coup de roue pour éviter ça, ou tu peux changer de trajectoire, frapper un carrosse, une poussette sur le bord du chemin, une personne âgée qui traverse, et on ne compte pas les journées avant qu'il arrive des accidents graves à cause de ça à Montréal, compte tenu que ça va altérer, bien sûr, la conduite d'automobile chez plusieurs personnes.
Montréal et les environs, c'est 4,4 millions de personnes. On est en train de se dire, mais quoi faire pour nettoyer ou pour réparer ces nids de poules-là? Maître Bellemare, on ne parle pas de refaire Montréal au grand complet. On parle de boucher des nids de poules, puis c'est complexe. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est rendu là? Puis je suis entièrement d'accord avec vous, là. Ceux qui étaient embauchés pour travailler sur la machine à nids de poules, là, qu'est-ce qu'ils foutent à l'année si la machine ne fonctionne pas?
Ah, c'est ça. Ils ne font rien parce qu'on n'a pas. Je ne pense pas qu'on ait réduit les effectifs parce que les machines sont brisées et on n'est pas capable de subvenir aux besoins en termes de nids de poules. Mais chose qui est établie, c'est que à Montréal, depuis le début du mois d'avril, là, OK? On est en mai, là. Depuis le début du mois d'avril, là, on parle d'à peu près quoi, à peine un mois et demi. Les appels pour les crevaisons de pneus ont explosé de 50 % une seule année. Là.
Parfait. Qu'est-ce qui arrive si on inverse le fardeau puis que moi, là, avec ma voiture, je me promène à Québec ou je me promène à Montréal, je scrape ma voiture parce que je tombe sur un nid de poule et là, on a inversé le fardeau puis la ville doit me rembourser. Qu'est-ce que la ville va faire comme priorité dans les prochaines années? Ils vont remplir les nids de poules parce qu'ils ne voudront pas payer.
Ça prend un incitatif, c'est ça que je te dis. Ça prend un incitatif. L'incitatif, c'est de payer.
Ben oui.
Moi, ce qui fait que je ne fais pas d'erreur, en tout cas le moins possible dans ma job, c'est quoi? C'est l'incitatif de ne pas faire d'erreur pour éviter d'être poursuivi ou d'être blâmé. Toi, c'est pareil. Tu fais une émission de radio, tu fais attention à ce que tu dis. C'est quoi l'incitatif? C'est de ne pas faire d'erreur. Parce que si tu fais des erreurs, ça peut avoir des conséquences.
Exact.
Alors, à partir du moment où dans une loi, tu dis que il n'y a pas de poursuite possible ou qu'il y a des... Parce que pour les dommages matériels, tu peux toujours réclamer au ministère des Transports, à la Ville, tout ça. Mais tu sais, c'est tellement compliqué, puis c'est tellement restreint les voies de remboursement que les gens y assument eux-mêmes leurs pertes. Quand je te donne les statistiques pour les crevaisons de véhicules qui ont augmenté de 50 % à Montréal, ouais. Ça ne dit pas que tout le monde a demandé des remboursements. Ça ne dit pas que tout le monde a décidé de prendre une mesure contre la Ville de Montréal. Les gens assument leurs pertes. Ils décident de payer un mécanicien, un garage pour ou un marchand de pneus pour changer les pneus parce que c'est assez aride. Là. Tu sais, un pneu, ça ne coûte pas 5 millions. Là. Alors, c'est le genre de perte que les gens se disent, ben, finalement, moi, j'ai besoin de mon auto. Fait qu'ils finissent par réparer le pneu ou des fois, c'est plus que ça. Qui est brisé et puis il passe à autre chose, mais ça ne veut pas dire que le dommage n'existe pas et que la colère des citoyens s'est nécessairement atténuée parce qu'il n'y a pas eu de statistiquement de remboursement pour la perte en question.
Maître Bellemare, je vais profiter du fait que vous avez quelques décennies depuis votre naissance pour vous poser cette question-là. Est-ce qu'on a perdu notre fierté à la grandeur du Québec pour certains trucs? Les villes sont sales, Maître Bellemare, puis certains maires, puis je salue un maire dans le secteur de Québec, c'est le maire de Saint-Augustin, M. Junot, qui, lui, 4-5 semaines avant que les grosses villes commencent à faire le ménage à l'intérieur là, de leur secteur, 4-5 semaines avant, avait déjà commencé à faire le ménage pour s'assurer que tout soit propre pour le printemps puis l'arrivée de l'été. Montréal s'est commencé depuis quelques jours. Québec s'est commencé aussi depuis quelques jours. Et Soraya Martinez a dit, pour ce qui est des commerçants, ce serait bien que vous commencez à vous occuper de la devanture de vos restaurants, de vos commerces. Puis je me souviens, Maître Bellemare, dans mon premier emploi, je travaillais chez Ronald McDonald. Mon gérant chez Ronald McDonald s'appelait Mario Tremblay, comme le joueur de hockey qui est devenu coach, qui a passé à l'histoire avec Patrick Roy. Là. Mon gérant de McDo s'appelait Mario Tremblay. Il nous faisait brosser chaque matin, Maître Bellemare, le devant du restaurant. C'était sur la rue Saint-Jean à Québec. Donc, c'était le devant, le trottoir, ça appartenait pas au restaurant. Là. Bien, il nous faisait brosser ça. Il nous faisait ramasser les papiers constamment. Puis lui, là, il démontrait qu'il était fier de son environnement, puis il voulait que ça soit propre. On a-tu perdu cette fierté-là en tant que résident, en tant que commerçant en 2020? On est rendu chacun pour soi, là, 2026?
Oui, bien l'exemple vient de haut, hein, parce que à partir du moment où les routes tombent en morceaux, qu'il n'y a pas d'entretien de nos espaces publics, en tout cas, il y en a moins qu'il y en avait. Le réseau routier en étant l'exemple le plus percutant, parce que le réseau routier, c'est fondamental, c'est la qualité de la route, c'est la qualité des trottoirs, c'est les garde-fous, c'est les intersections, c'est tout le gazon qui entoure les réseaux routiers. À partir du moment où ça tombe en morceaux puis qu'il n'y a plus de fierté, bien, c'est moins tentant pour un propriétaire de faire attention à sa devanture ou pour un commerçant. Quoique le commerçant, lui, il faut qu'il attire du monde, fait qu'il a intérêt à être propre pour être sûr que si la devanture est bien nettoyée, ça veut dire que la cuisine risque d'être un peu plus...
Mais des fois, ce n'est pas toujours le réflexe des employés. Là. Soraya Martinez avait donné un exemple. C'est un sac de poubelle qui reste éventré 3 jours devant le commerce. Là. À un moment donné, envoie tes employés, ramasse ça, arrange le sac de vidange, puis... Faut se mettre beau, là. Si on veut accueillir du monde, que ce soit à Montréal ou à Québec pour le tourisme et tout ça, faut se mettre beau, là. Qui fait le ménage à temps de la visite, comme on dit?
Ouais, ton petit espace public. Mais c'est vrai, on peut ramasser les poubelles tout à coup, mais je me souviens, moi, il y a quelques années, à Québec, j'avais nettoyé un petit peu l'entrée chez nous en hiver et j'avais pelleté une partie de la rue. C'est à peu près 2 pieds à l'intérieur de la rue, comprends-tu? 1 mètre pour les plus jeunes. Alors, parce que ça a donné, il y avait comme un monticule. Ouais. J'avais décidé d'enlever la neige, mais j'empiétais sur la voie publique. Il est passé un policier qui m'a dit que j'avais pas d'affaire à faire ça parce que ça appartenait à la ville. Alors, les règlements de la ville, c'est un peu comme M. Nid de Poule, là, qui se fait blâmer par la mairesse, qui dit non, l'espace public, là, M. Tekiout, là, M. Saad Tekiout, là, non seulement vous n'aurez pas de médaille, mais l'espace public, ça nous appartient. C'est nous qui décidons comment on va colmater les nids de poules. Parce que c'est vrai qu'un citoyen n'a pas de juridiction, n'a pas le pouvoir d'entretenir, réparer, remodeler, reconfigurer un espace public, c'est-à-dire un trottoir, une route, un parc. Alors, tu peux ramasser une vieille bouteille de coke qui traîne à terre dans un parc parce que tu ne trouves pas ça correct, puis la mettre dans la poubelle, mais tu n'as pas le droit de passer le gazon, tu n'as pas le droit de passer le fouet, tu n'as pas le droit de... Alors, pour le citoyen, son rôle est limité.
Ouais. Pas le droit de faire le ménage, pas le droit de faire la job de quelqu'un, mais ce quelqu'un-là, il ne fait pas sa job. Mais on n'a pas le droit de voler sa job, mais il ne fait pas sa job, mais il est payé pour faire sa job.
Il est payé pour faire sa job. On est écœuré souvent. C'est en avant de chez vous, ça a chaîne à rock. Là, tu regardes ça, puis c'est tout croche. C'est pas entretenu, c'est pas propre. C'est pas nettoyé. Puis c'est la ville qui doit le faire ou c'est le gouvernement du Québec à travers le ministère des Transports qui doit le faire. Mais tu ne peux pas, et les lois l'interdisent formellement ou les règlements municipaux, tu peux pas commencer à aménager, organiser un espace public qui relève de la responsabilité de la ville. Puis si la ville ne fait pas sa job, tu n'as pas le droit de faire la job à sa place. Bon, alors, la ville va vous dire, bien, c'est nous qui devons contrôler. Si on répare un nid de poule, il y a une façon de réparer un nid de poule. Scientifiquement, il faut mettre du concassé, il faut mettre un rouleau de goudron ou je ne sais pas quoi pour empêcher que l'eau passe. Après ça, il faut mettre un peu de sable. Après ça, il faut mettre du ciment. Après ça, il faut mettre de l'asphalte. Je ne le sais pas. Je ne connais pas la recette. Là, je ne l'ai jamais faite. Mais la ville va nous dire... Il y a une façon professionnelle de réparer un nid de poule et ce n'est pas Joe Blow qui va réparer ça. Alors, ça peut avoir un certain fondement jusqu'à un certain niveau, mais je trouve que qu'un citoyen décide à un moment donné d'entreprendre une corvée ou un ménage ou un réaménagement ou une réparation, je trouve que ça a tout le moins l'effet de montrer jusqu'à quel point on a un roll-ball puis que la ville, finalement, ne fait pas sa job. Mais au-delà de ça, est-ce que la mairesse de Montréal va commencer demain matin à mettre vraiment l'urgence sur les nids de poules quand elle dit que ça va prendre 3 ans? Moi, je n'ai pas entendu l'entrevue à Patrice Roy, je l'ai entendu celle avec Dutrisac où il a dit « c'est quoi 3 ans? » Puis ça a été assez fait ramasser pas mal. C'était parfait parce que, tu sais, elle nous donne 3 ans. C'est quoi, là? Parce que 4 ans, c'est son mandat.
C'est un très bon point. C'est un très
bon point. On a les effectifs, on a les machines pour peu qu'ils soient réparés. On a un réseau routier tout croche, commencer par les grandes avenues, commencer par les certaines rues que vous allez cibler, puis promettez-nous des changements. C'est quand même important, le réseau routier. Là. C'est fondamental dans une ville comme Montréal.
Mais j'ai quand même une pensée pour elle qui se ramasse avec la merde que Valérie Plante a faite dans les dernières années. Puis, savez-vous quoi? Les gens qui ont mis Valérie Plante au pouvoir, qui ont voté pour elle, doivent se poser des questions actuellement. Pourquoi on a voté pour ça? C'est incroyable. Pourquoi on a voté pour Valérie Plante, qui visiblement, au niveau de l'administration de la ville, avait aucune compétence. Puis là, Mme Soraya Martinez-Ferrada se ramasse avec les problématiques. Au moins, elle est là pour les bonnes raisons. Là, pour ce qui est de Mme Martinez-Ferrada, pauvre petite.
Mme Plante, là, oui, on savait qu'elle n'était pas très, très intéressée par la gestion courante des grandes fonctions municipales fondamentales. Rappelons que les villes, là, c'est fait pour le réseau routier, c'est fait pour
les poubelles,
les parcs, la qualité de vie, oui. Les poubelles, les ordures, le déménagement. C'est fait pour ça, les villes. Là. Ouais. On dit que c'est le niveau de gouvernement le plus près du citoyen. Mme Plante, en arrivant au pouvoir, on sentait que l'automobile, pour elle, c'était un problème. Donc, c'est la lutte à l'auto. On n'en voulait pas au centre-ville. Donc, des chantiers interminables, tout ça, on comprenait ça. Mais il y a eu quand même une détérioration un peu plus accélérée du réseau routier au cours de la dernière année. C'est vrai qu'à Montréal, on a senti une décrépitude là, évolutive au niveau du réseau routier, mais je pense que là, actuellement, en 2026, on assiste à une catastrophe au plan du réseau routier. Alors, il s'est passé quelque chose. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, je ne sais pas si les machines ont brisé au printemps 2025 pour faire en sorte que tout l'hiver, avec le dégel, on se retrouve avec autant de nids de poules. Mais il y a des explications à ça, puisque il me semble qu'en 2022-2023, on en parlait beaucoup moins, même s'il y avait quand même beaucoup de pneus qui étaient blue-outés.
On va s'en sortir un jour, Maître Bellemare. Je vous rappelle que ce soir, on a le plaisir d'être, comme à chaque lundi, avec Maître Marc Bellemare, bellemareavocat.ca, pour des dossiers de SAC, DIVAC, de CNE, SST. On fait une courte pause et on revient tout de suite.
Marceau, le soir. Marceau, le matin.
On va aller rejoindre la gauche de Max Larouche, le meilleur chroniqueur sportif au Québec, Charles Milliard. Bonjour, M. Milliard, comment allez-vous?
J'attendais plein d'introductions, mais pas celle-là.
Pour le troisième lien, qu'est-ce qu'on fait avec ça, M. Milliard? Mme Fréchette veut un troisième lien, mais un troisième lien payant.
Mme Fréchette a mentionné une option que j'ai mentionnée avant elle, c'est-à-dire que moi, je suis ouvert à un partenariat public-privé, effectivement, pour le troisième lien. Donc, si les Québécois nous font confiance, moi, je vais m'asseoir avec le secteur privé et voir s'il y a des possibilités de faire ça, parce que je crois à la boucle périphérique dans la région de Québec. Ça fait 5-6 fois que je viens ici, puis je vous dis la même chose.
Vous dites toujours la même chose.
Voilà.
C'est tannant, on peut pas vous challenger.
Bon.
Marceau, le matin, en semaine, 6h.
Ce segment d'émission, présenté par la Force Kia.
Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair vous disent merci.
Kia est la marque la plus vendue dans la région.
À moins de 27 000 $, la K4 est le véhicule le moins cher au pays et il consomme très peu d'essence. Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair domine grâce à vous.
Cet été, tout commence chez Club Jouet. En ligne, découvrez le tout nouveau catalogue estival rempli d'idées pour toute la famille. Maisonnette, trottinette, jeux d'eau, accessoires pour la piscine, téléguidés et bien plus pour profiter pleinement de la saison. Et ce n'est pas tout.
Cette semaine, écoutez Gravel dans le retour pour courir la chance de gagner une carte cadeau de 250 $
pour vous amuser toute la saison grâce à Club Jouet. Club Jouet et Boulevard 102.1. Complice de votre été, beau temps, mauvais temps.
Boulevard 102.1.
Acheter un bon système de chauffage ou climatisation, ça peut vite devenir compliqué. Choisir le bon modèle, comparer les prix, comprendre les subventions. Ouf! Hey, chez EnviroConfort, on vous rend ça plus simple et on va jusqu'à vous faire vivre une vraie expérience pour l'achat de votre thermopompe. On vous conseille, on trouve le meilleur équipement pour votre maison, on s'occupe de l'installation et même de vous montrer comment ça marche. Bref, vous vous occupez de rien, sauf d'être bien chez vous. EnviroConfort, le confort sans le moindre effort.
Pour reprendre tes activités extérieures avec de l'énergie, Planète Nutrition t'offre 20 % de rabais sur tous les suppléments jusqu'au 18 mai. Ce printemps, retrouve le plaisir de bouger avec Planète Nutrition. Planète Nutrition au 670 rue Bouvier ou au planètenutrition.ca.
Préautorisation, renouvellement ou refinancement hypothécaire? Dans le marché actuel, un bon choix, ça se prépare. Avec Axia, on évalue vos options pour que vous avanciez avec confiance. Avant de signer, visitez axiahypothèque.ca. Axia, la valeur d'un bon choix.
Tu penses qu'acheter une auto pas neuve, c'est pas avantageux? Ben non. Comme une neuve, t'as des garanties et du financement. Pour une voiture, c'est Charlesbourg Toyota. Va voir les avantages au comme-neuve.com.
Coudon! As-tu pris tes cartes dans une boîte de céréales? Hey, pis toi, Steve, t'es tellement lent, si tu cherchais quelqu'un pour ralentir le chantier, ils ont pogné le bon!
Pis toi, ma belle, à la bonne ta banane. Mais là, c'est rien qu'une blague.
Oui, mais là, c'est plus drôle. Sur les chantiers, on entre en zone respect. Vous êtes témoin ou victime de comportements inappropriés? Agissez. Pour des ressources et du soutien, visitez zonerespect.org.
Pièces d'auto économique, c'est 8 magasins et ce, partout au Québec. C'est des grandes marques et des prix compétitifs. Promotion en cours sur les freins Brake Max et Bosch et plus encore. En grande nouveauté, notre magasin sur Charest vous accueille aussi le samedi de 8h à midi. Pièceséconomique.com.
C'est pas pour rien qu'ABBA, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez ABBA, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, ben, elle fonctionne. ABBAExtermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. ABBA, une solution définitive.
Et on accueille Marie-Lou qui va nous parler de l'événement Avantage Hyundai.
Pas de mon nouveau livre de recettes?
Oui, oui, si on a le temps.
Ah, OK. Ben, le Tucson Preferred 2026 à traction intégrale est offert en location à partir de 99 $ par semaine avec 0 $ d'acompte.
0 $ d'acompte?
Oui, et zéro stress avec une garantie limitée sur les véhicules neufs de 5 ans, mais c'est pour un temps limité.
Oh, c'est tout le temps qu'on avait. Merci. Bonne soirée, tout le monde.
Puis mon livre, lui? Location 60 mois au taux de 4,49%. Des conditions s'appliquent. Visitez Hyundai Canada pour les détails.
102.1, la radio rock de la vieille capitale. Ça, c'est
Boulevard.
BLVD.
Boulevard. 102.1.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée.
Comme chaque lundi soir, on a le plaisir d'être accompagné de Maître Marc Bellemare, bellemareavocat.ca, pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNESST. Vous pouvez le contacter sans aucun problème. Maître Bellemare, vous avez été ministre de la Justice à l'époque et vous aviez sous votre gouverne le DPCP, donc le directeur des poursuites criminelles et pénales. Je me posais cette question-là la semaine dernière. Comment on fait pour analyser une cause qui fait en sorte que, oui ou non, on va poursuivre un individu par rapport au crime qu'il a commis? Parce que parfois, il y a des enquêteurs qui soumettent des dossiers, puis le DPCP dit « Ouais, il n'y a pas grand-chose là-dedans, on n'est pas en mesure de poursuivre ». C'est quoi les démarches du DPCP ou d'un procureur pour décider de poursuivre ou non un individu?
Bien, le DPCP, c'est le directeur des poursuites criminelles et pénales, comme tu le dis, là, qui porte chaque année, bon an, mal an, 100 à 125 000 accusations de nature criminelle contre des individus. Ça va du meurtre prémédité à l'infraction routière puis à l'infraction à chasse-pêche pour les braconniers. Là. Alors, ça touche à peu près n'importe quoi. Pénal, c'est des infractions à des lois provinciales, comme le Code de la route, de la sécurité routière, puis criminel, ben c'est violence conjugale, alcool au volant, meurtre, viol, pas viol, mais agression sexuelle, etc. Alors, c'est d'abord, la première étape, c'est la police, parce que tu ne peux pas avoir accès au directeur des poursuites criminelles et pénales qui regroupe 700-800 procureurs actuellement qui sont engagés, bien sûr, par le DPCP qui relève du ministère de la Justice, mais c'est la police qui reçoit la plainte.
Ouais.
La police décide d'enquêter, rencontre la personne qui est potentiellement coupable d'un acte criminel ou d'une infraction pénale. Et à ce moment-là, le dossier de la police est envoyé au procureur. Alors, les procureurs, ils sont dans leur bureau, puis ils attendent que la police les alimente en termes d'enquête. C'est pas le procureur de la Couronne qui va décider d'aller enquêter puis d'interroger tout le monde. Est-ce que vous avez vu quelque chose de suspect? Est-ce que vous connaissez telle personne? Est-ce que vous avez vu quelque chose? Alors, le procureur de la Couronne, le DPCP, on l'appelait ça autrefois le procureur de la Couronne, pour bien des gens, c'est la meilleure appellation, va regarder le dossier d'enquête et s'il pense qu'il y a effectivement si la conviction morale, c'est un peu ça le critère, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé, le procureur du DPCP, d'être convaincu hors de tout doute d'avoir une condamnation. C'est un petit peu, un niveau légèrement inférieur à ça. Il faut qu'il y ait la conviction morale, il faut qu'il soit pas mal sûr dans sa tête qu'il va obtenir une condamnation parce que la certitude n'existe pas, là comme ailleurs, mais la conviction morale, ça veut dire qu'il est pas mal sûr qu'il va obtenir une condamnation. À ce moment-là, il porte des accusations contre l'individu, coupable, non coupable, éventuellement procès, jugement, acquittement ou condamnation. Et le procureur de la Couronne, il peut, lui, demander des compléments d'enquête aux policiers. Je me souviens, à l'époque, quand j'étais à justice, ça arrivait assez souvent qu'on demandait des compléments d'enquête. On disait à la police, mais peux-tu aller vérifier tel ou tel témoin? Peux-tu le rencontrer à nouveau pour bien vérifier les informations, qui il peut identifier, etc. Et le procureur, le DPCP, procureur de la Couronne, éventuellement, lui, il peut décider de rencontrer un témoin important. Dans un cas d'agression sexuelle, je le sais pour avoir représenté quantité de victimes d'agression sexuelle dans ma vie, souvent, la personne va porter plainte à la police va enquêter, et le procureur du DPCP qui réalise que l'essentiel de sa preuve porte sur le témoignage de la victime peut vouloir la rencontrer. Je dis là parce que c'est souvent des femmes la plupart du temps. Il va rencontrer la femme dans son bureau, il va la questionner, puis il va finalement se demander, est-ce que je vais gagner ma cause? Est-ce que je vais faire condamner ce gars-là à partir du témoignage de cette femme-là? Puis là, il va évaluer sa mimique, sa gestuelle, son souvenir, les contradictions potentielles avec ce qui a déjà été dit, ce qui a déjà été écrit dans son dossier. Si ça fait deux, trois fois qu'elle est rencontrée, est-ce qu'elle est cohérente avec ce qu'elle a dit? Est-ce qu'elle est certaine de ce qu'elle a dit? Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce que le langage corporel est positif? Est-ce que le juge va finalement croire sa version? Parce qu'on sait que dans un crime de nature sexuelle, Il y a souvent des gens qui sont condamnés sur la base d'un seul témoignage. Hein? Souvent, on pense que ça prend 3-4 témoins, mais il n'y a pas 3-4 témoins d'un cas d'agression sexuelle. La plupart du temps, il y a l'agresseur et la victime. Ils sont juste deux.
Ouais. Mais il y a un cas à Québec là, où un athlète olympique, c'est Dominique Laroche. Oui. Dominique Laroche, qui a été déclaré coupable d'agression sexuelle. Il a rencontré une jeune fille de 13 ans. C'était une jeune fille qui était une amie de la famille. La jeune fille a habité chez lui. Et lorsque les enfants de M. Laroche étaient absents, lorsque la femme de M. Laroche était absente, ben lui, il l'amenait dans sa chambre du sexe. Et pendant des années et des années, quand il l'a connue, il avait 43 ans. Elle avait 13 ans. Pendant des années et des années, il abusait d'elle. C'était le témoignage d'une seule victime. Et ça a suffi pour le faire déclarer coupable.
Oui, jugement la juge Gilbert qui a été portée en appel à l'heure actuelle. On est au stade de la peine, là, puis la semaine passée, cette victime-là a témoigné dans le cadre d'un témoignage, et, semble-t-il, extrêmement percutant et extrêmement touchant. Quoi qu'il en soit, il est possible d'obtenir une condamnation, même si le seul témoin est une victime, mais dans la plupart des cas, le procureur du DPCP qui va mener ce procès-là, sur qui repose la responsabilité de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'individu, va dans bien des cas vouloir s'assurer que la personne est correcte et qu'elle est crédible et qu'elle risque de convaincre le juge hors de tout doute raisonnable. Évidemment, il y a son témoignage à elle qui doit être impeccable, mais il y a aussi le témoignage de l'accusé qui doit être moins impeccable. Et la plupart du temps, le juge qui va apprécier les deux, s'il voit que le témoignage de l'accusé et plus ou moins crédible, qu'il y a des contradictions, il va évaluer les deux. Et ça prend une preuve solide pour obtenir une condamnation de cette nature-là, mais ce n'est pas impossible. Mais dans bien des cas, le DPCP, procureur de la Couronne, va rencontrer la victime pour pouvoir tester sa crédibilité. Ce n'est pas le matin du procès, là, tu sais, ça commence à 9h30, puis la fille arrive à 9h15, tout croche, puis elle témoigne, puis il perd sa cause. Il va s'assurer d'avance que l'individu est crédible et que les témoignages sur les aspects fondamentaux de l'accusation sont susceptibles de tenir la route au moment du procès.
Je vais vous poser une question. On dirait que j'ai peur de la réponse, là, mais il manque de procureurs au Québec là, pour toutes les causes qu'on a à soumettre devant la justice. Est-ce que parfois, il y a des décisions qui sont prises en raison du fait qu'on se dit « il n'y a pas assez de procureurs, on ne sera pas capable de travailler sur ce dossier-là puis on ne rentrera pas dans le temps là, pour le fameux arrêt Jordan » Patati, patata. Ça arrive-tu, ça, que le DPCP dise « c'est pas assez suffisant pour que ça en vaille la peine? »
Bien, c'est ce que les représentants des procureurs du DPCP a dit il y a quelques semaines, sincèrement, en disant « on manque d'effectifs, on manque de monde, on manque de matériel, et on est obligé, dans certains cas, de faire ce qu'on appelle du « plea bargaining », c'est-à-dire de barguiner une accusation, plaidoyer de culpabilité pour une infraction réduite, avec une peine réduite aussi. On est obligé de faire des deals parce qu'on n'a pas le temps de se taper tous les procès qu'on devrait faire, puis on n'a pas le temps de plaider sur toutes les infractions qui seraient normalement recevables. C'est ce qui a été dit. Alors, moi, ça ne me surprend pas beaucoup. Je pense que c'est une partie du problème. Je dirais aussi qu'on a un DPCP au Québec qui est plus mou que dans d'autres provinces. Je pense particulièrement à l'Ontario puis à l'Alberta, où on a une jurisprudence qui est plus agressive du côté du DPCP. On a des jugements qui sont plus sévères, on a des accusations qui sont plus importantes, qui sont portées. Et là-bas, on a une justice plus sévère dans le type de jugement qu'on reçoit. La jurisprudence est plus sévère face aux criminels dans ces provinces-là qu'au Québec. Alors, j'ai toujours trouvé qu'au Québec, on était mou sur l'accusation. C'est sûr que si la Couronne, dans des cas très rares, si le DPCP porte des accusations farfelues et que l'individu est acquitté, il peut y avoir une poursuite contre le DPCP, mais ces poursuites-là sont recevables uniquement s'il y a eu malversation, faute grave, laxisme. Alors, quelque chose d'extrêmement grave comme faute, on se souviendra de Benoît Proulx qui avait fait condamner à l'époque le ministère de la Justice, qui est devenu aujourd'hui le DPCP là, par rapport à structurellement, à 3 millions de dollars parce qu'il avait été accusé d'avoir tué quelqu'un de façon préméditée, donc le meurtre de premier niveau. Il avait été accusé sur la base de témoignages d'un individu qui disait avoir reconnu les yeux de Benoît Proulx sur le trottoir 9 ans après le crime. Alors, la cour d'appel avait dit que c'est complètement farfelu. et avait acquitté Benoît Proulx sans réserve. Et donc, la Cour d'appel avait non seulement cassé la décision du jury, mais prononcé elle-même l'acquittement, tellement c'était farfelu. Et par la suite, le ministère et le procureur au dossier ont été condamnés pour une somme énorme. Ça a laissé des traces. On a encore une certaine frilosité du côté du DPCP aujourd'hui au Québec, à mon avis. Puis on pourrait être beaucoup plus agressif, demander des peines beaucoup plus sévères, éviter le plus possible les peines dans la communauté, les peines Netflix, que la population rejette assez massivement, à mon avis, et qui décrédibilise le système de justice criminelle. On devrait être plus agressif, aller en appel plus souvent, puis c'est pas le cas. Alors, on a une couronne, on a un DPCP qui est assez frileux au Québec, mais ça a l'air qu'il faut vivre avec. C'est un peu malheureux. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bons procureurs qui font leur travail et qui travaillent fort pour faire en sorte que la justice triomphe, mais je pense qu'on pourrait faire encore mieux.
Est-ce qu'il y a encore beaucoup de paperasse? Prenons votre champ d'expertise, là, quand on regarde le droit que vous pratiquez. Là, y a-t-il encore énormément de paperasse? Est-ce que les juges sont plus ouverts à faire du Teams pour être sûr et certain d'avoir une salle de cours qui est peut-être à distance, mais une salle de cours peut-être plus performante? On va faire sauver du temps à tout le monde?
Oui, bien, de plus en plus, on en fait du Teams. C'est sûr que depuis 2022-2023, on est revenu à nos mauvaises habitudes, que je qualifierais de mauvaises habitudes, de tenir la plupart des audiences encore en présentiel. Les juges l'exigent. C'est sûr que dans certains cas, pour évaluer la crédibilité, le comportement d'un témoin, des fois, c'est mieux de l'avoir devant soi plutôt que de l'avoir à TV, comme on dit. Mais je pense qu'on peut faire un peu plus de virtuel et c'est une question d'économie, de disponibilité, mais même la Cour d'appel actuellement entend en virtuel des avocats qui sont à Baie-Comeau puis qui sont à Rouyn-Noranda, dans le district de Montréal, pour pouvoir sauver du temps et sauver des déplacements parce que, surtout en hiver, là, le virtuel, c'est bien pratique. On est sûr que tout le monde va être au rendez-vous lorsque la Cour va être ouverte.
Maître Bellemare, c'est toujours un plaisir. Je vous souhaite de passer un excellent jeudi soir. On se reparle lundi soir prochain. Puis, c'est toujours un plaisir. Bellemareavocat.ca pour des dossiers de SAC, des VAC, de CNESST. Si vous avez ça à lui soumettre, allez sur ce site Internet-là. Il y a des belles images de Maître Bellemare. Vous allez vous gâter.
Parfait. Merci.
Salut. Bonne semaine. Bye-bye. Bonne soirée.
Marceau, le soir. Le 31 mai prochain, Boulevard 102.1 et la Société Alzheimer de Québec vous invitent en grand nombre à la Maison O'Neill pour participer à la marche pour l'Alzheimer IG Gestion de patrimoine. Dès 10h, marchez dans des sentiers aménagés au cœur d'un domaine patrimonial et faites la différence pour la cause. Les dons amassés sont essentiels pour financer les services offerts par l'organisation. L'escouade sera sur place avec moi-même, Nathan Meilleur, pour encourager les marcheurs. Inscrivez-vous au SociétéAlzheimerDeQuébec.com.
Décourante, spécialiste en garde-corps, verre et aluminium, vous offre des produits québécois sur mesure, garantie 20 ans avec un rabais de 15 % Visitez déco-rampe.com.
À Québec, un Ford, ça se penche chez Desjardins Ford.
Profitez d'offres exceptionnelles chez Desjardins Autocollection. En mai, obtenez le Bronco Sport 2026 à partir de 89 $ par semaine en location 60 mois. Et le F-150 2026 en financement à partir de 0 % jusqu'à 72 mois. Pour les meilleures offres, passez nous voir chez Desjardins Autocollection.
À Québec,
profitez de l'événement cadeau du 50e chez Gréchy SCAF. Achetez une paire de lunettes complètes et recevez-en une deuxième en cadeau en plus d'une paire de solaires. Oui, deux paires en cadeau. Jusqu'au 16 août, Chantal Gravel, opticienne. Détails au gréchy-scaf.com.
C'est pas pour rien qu'ABBA, c'est le choix du consommateur depuis plusieurs années. Nos estimations sont gratuites, nos interventions sont rapides. Chez ABBA, on vend du résultat. Il y a plus de 1000 avis en ligne qui prouvent que notre solution, elle fonctionne. ABBAExtermination.ca ou appelez-nous maintenant au 666-6667. ABBA, une solution définitive.
Le soleil est là et votre prochaine Volkswagen aussi. Vous conduisez déjà une Volkswagen? Parfait! Chez Volkswagen Saint-Nicolas, on vous récompense avec 1% de rabais sur votre prochaine location. C'est le moment d'upgrader vos road trips de l'été avec un modèle plus récent, plus techno et toujours aussi agréable à conduire. Redécouvrez le plaisir d'être sur la route avec encore plus de confort et de performance. Passez nous voir dès maintenant et prenez le volant de votre prochaine Volkswagen. Volkswagen Saint-Nicolas, votre prochaine Volkswagen vous attend.
Boulevard.
Il y a une seule façon de partir la web radio de Boulevard 102.1. Tu vas au blvd.fm puis tu pèses sur play.
102.1.
Salut, c'est Boucher.
Salut, c'est Lortie.
Lortie, tu sais c'est quoi le fun chez nous?
À part l'horaire flexible, la latitude puis l'autonomie qu'on a dans nos décisions.
Exact. Ici, tu fais partie d'une équipe qui se serre les coudes.
Tu règles des affaires, t'apprends vite puis tu peux être fier de ce que tu bâtis.
Puis surtout, tu repars avec...